This meeting is being recorded.
Chat. Ça marche, d'accord. Bon, l'enregistrement doit être en route, donc nous commençons. Bon, je m'appelle Olivier Talagrand. Ah oui, alors il faut que je reste ici parce qu'il n'y a pas la téléconférence. Donc, il faut que si on m'entend, il faut que je reste à peu près ici. Bon, je m'appelle Olivier Talagrand. Je suis directeur de recherche honoraire au CNRS, c'est-à-dire que je suis en retraite. J'ai travaillé pendant longtemps sur la modélisation numérique de l'écoulement atmosphérique, sur la prévision météorologique numérique, sur l'assimilation des observations, beaucoup ici au laboratoire de météorologie dynamique, mais en d'autres endroits. J'ai aussi travaillé aux États-Unis, à Princeton, au Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, et j'ai aussi travaillé en Angleterre, au Centre européen pour les prévisions météorologiques intermoyen terme. Qui d'entre vous a entendu parler de ce Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme? En anglais, ECMWF. Oui, donc vous êtes assez nombreux à en avoir entendu parler. Bon, alors je vais faire mon cours sur le programme. Non, ça ne marche pas. Est-ce que j'ai partagé l'écran? Peut-être que le partager. Il faut peut-être que je partage l'écran. Oui, partage l'écran. Oui. En ligne, vous voyez mon écran? Bon, alors le programme du cours, c'est le suivant. En gros, alors je vais d'abord vous parler de la modélisation numérique de l'écoulement atmosphérique, particulièrement dans le contexte de la prévision météorologique, ce pourquoi la modélisation numérique de l'écoulement atmosphérique a d'abord été développée, si elle s'est attendue à d'autres choses, en particulier à la climatologie, comme vous le savez certainement. Alors, je vous décrirai un peu ce que sont ces modèles, quels sont les performance actuelle de la prévision météorologique numérique. Et puis, je vous parlerai un peu de quelque chose qui s'est développé depuis à peu près 2 ans, c'est-à-dire la prévision par ce qu'on appelle intelligence artificielle, il vaut mieux dire apprentissage machine, machine learning en anglais. Je voulais dire quelque chose maintenant. Je vous parlerai du système d'observation météorologique et du problème de l'assimilation. Le problème de l'assimilation, c'est le problème de prendre toutes les informations disponibles. Au départ, c'était le problème de prendre toutes les informations disponibles pour pouvoir démarrer une prévision météorologique. Ceci fait appel à des notions, en gros, d'estimation bayésienne et de probabilité. On a des sources d'informations diverses, chacune avec sa propre incertitude. Donc, pour prendre en compte les incertitudes, un contexte assez naturel, c'est les probabilités. Bon, alors je vous parlerai d'abord, pour l'option 3, de l'interpolation optimale, qui est en quelque sorte la plus simple des méthodes non simplistes pour faire de la simulation, qui s'est étendue et qui mathématiquement entre assez bien dans le cadre de ce qu'on appelle le best linear unbiased estimator. Oui. Je ferai mon cours en français, mais la plupart des médiapos en anglais. Je trouve que c'est un compromis assez commode entre. D'ailleurs, pour ma part, quand j'écoute une présentation ou que j'assiste à une présentation, bien souvent, c'est beaucoup plus ce que je vois sur l'écran que ce que j'entends qui entre mieux dans la tête. Donc, alors cette méthode s'est développée sous des formes avancées, le filtre de Kalman d'ensemble, le filtre de Kalman, le filtre de Kalman d'ensemble, l'assimilation variationnelle. À ce propos, oui, Est-ce que vous connaissez déjà quelque chose de l'assimilation? Si je vous parle d'assimilation variationnelle, à qui ça veut dire quelque chose pour vous? Je vous parle d'équations adjointes, vous savez? Vous savez, vous pourriez expliquer là au tableau ce que c'est que les équations adjointes? Peut-être pas, d'accord. D'accord. Fils de Kalman d'ensemble. Il y en a un qui m'a dit qu'il voulait en particulier étudier, apprendre sur les méthodes d'ensemble. Filtre de Kalman d'ensemble. Est-ce qu'il y en a ici, en ligne, qui saurait dire, qui saurait dire, qui sait à peu près ce que c'est que le filtre de Kalman d'ensemble? Alors, ensuite, je vous parlerai des filtres bayésiens, qui une méthode qui est. Et puis, alors, de l'assimilation par apprentissage de machine, puisque l'apprentissage de machine s'étend, enfin, existe déjà pour ce qui est de la prévision à proprement parler, et des travaux sont faits pour l'étendre à l'assimilation. Mais alors, je dois dire que sur les aspects apprentissage de machine, hein, je suis donc retraité, je suis déjà un petit peu hors du circuit des gens les plus actifs, donc je suis à peu près au courant. Mais peut-être certains vous, certains d'entre vous seront-ils plus de quoi? Ou seront-ils? Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que les réseaux de neurones? Qui sera expliqué, oui, qui sera expliqué ce que c'est qu'un réseau de neurones. On va venir au tableau et expliquer ce que c'est qu'un réseau de neurones. D'accord, pas forcément. Non. Okay. Non, alors sur ce point-là, il n'est pas impossible que quand je vous parle d'apprentissage de machine et réseau de neurones, il y en ait en fait parmi vous qui s'y connaissent mieux que moi. Alors, autre chose, pour ceux qui le veulent, ce cours fera l'objet d'un contrôle. Pour les étudiants en thèse de l'ED 129, ils doivent avoir 80 ou 90 heures de cours validés, et les vainqueurs de mon cours, peuvent servir à cela. Alors, le contrôle, la plupart des années, bon, ça fait plusieurs années que je donne ce cours, peu à peu, il évolue. La plupart des années, c'est une présentation commentée d'articles. C'est-à-dire que je vous soumets une liste d'articles, parmi lesquels vous en choisissez un ou une paire d'articles qui vont ensemble. Vous avez plusieurs semaines pour les étudier et vous en faites une présentation, typiquement 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions, ce qui peut servir à valider le cours. Il faudra d'ailleurs que nous nous mettions d'accord. Alors, la forme peut être différente, et une ou deux fois, le contrôle a été d'une forme beaucoup plus standard de problèmes sur table. Hein. C'est bon, c'est une possibilité. Alors, il faudra en particulier que nous mettions, pour ceux qui veulent passer le contrôle, que nous nous mettions d'accord sur les modalités du contrôle. Bon, y a-t-il des questions à ce stade-là? Pas de questions. Très bien. Ça ne va pas avancer. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qu'est-ce que ça représente, ça? Alors, vous pouvez voir, il y a des coordonnées. Une coordonnée horizontale. La coordonnée horizontale, ça va de 90 d'un côté, où il y a marqué nord, 90 côté sud, il y a marqué south, avec 0 à mi-chemin. Et puis, il y a une coordonnée verticale où on peut voir une unité qui est de watts par mètre carré. Qu'est-ce que ça représente? Oui? Pardon? La radiation moyenne en fonction de l'altitude, effectivement, ou des watts par mètre carré. Mais plus précisément, c'est relatif à quel système physique? Si c'est relatif à un système physique. Bon, la latitude, effectivement, on peut penser à la Terre. Bon. Et il y a trois courbes, vous pouvez dire ce qu'elles sont. Bon, c'est le bilan radiatif, moi c'est effectivement ce que vous disiez, c'est le bilan radiatif de la Terre, moyenné sur un an. Bon, alors la courbe du haut, c'est la quantité d'énergie reçue du Soleil au sommet de l'atmosphère. Si vous voulez. Si vous vous placez hors de l'atmosphère et que vous vous mettez face au Soleil, la quantité d'énergie reçue par mètre carré, c'est 1400 watts. 1400 watts, c'est la quantité d'énergie reçue sur l'orbite terrestre depuis le Soleil. Alors là-dedans, il y en a. Et alors, la surface de la section efficace, c'est un quart, PR2, c'est un quart de la surface totale. Donc, la quantité d'énergie reçue toute saison et toute latitude confondue, c'est un quart de 1400, c'est-à-dire 300 et quelques. Bon. La courbe du plein représente, la courbe du haut représente comment cette quantité d'énergie est distribuée en latitude. L'équateur reçoit le plus d'énergie, les pôles en reçoivent moins. Ils en reçoivent, puisque pendant l'été, ils sont tournés, les pôles reçoivent de l'énergie. Je vous signale que ce n'est pas comme ça nécessairement sur toutes les planètes. La planète Uranus, en particulier, a son axe de rotation qui est quasiment dans le plan de l'orbite. C'est-à-dire, au solstice, le Soleil est au zénith à l'un ou l'autre pôle, ou quasiment au zénith, et sur Uranus, les pôles reçoivent plus d'énergie que l'équateur. C'est pas nécessairement comme ça partout. Bon, alors de cette énergie incidente, je vous signale aussi, en passant, que la courbe est exactement symétrique en latitude. Elle est exactement symétrique en latitude parce que l'orbite de la Terre est elliptique. Donc, quand la Terre est plus loin du Soleil à l'aphélie, ce qui se produit actuellement début janvier ou début ou début juillet, je ne me rappelle même plus. Quel est... bon, d'accord. Elle reçoit, quand elle est aphélie, elle reçoit moins d'énergie, mais comme d'après la loi de Kepler, le mouvement est plus lent, donc elle reste plus longtemps. Donc ça se compense exactement. Donc la courbe est exactement symétrique. Alors, de cette énergie incidente, une certaine proportion est réfléchie directement vers l'espace extérieur et donc ne joue aucun rôle dans l'énergétique de la planète. Alors, l'albédo terrestre, la quantité d'énergie réfléchie, soit par l'atmosphère, les nuages, soit par la surface du sol, en particulier les régions enneigées ou englacées, c'est au total 30%. C'est l'albédo de la Terre, 30%. Alors, la quantité d'énergie absorbée, c'est la courbe pleine du bas. Alors ici, il y a une petite fluctuation là du côté de l'équateur. C'est parce que c'est déjà une courbe assez ancienne, mais à la précision, ça reste vrai. Bon, cette petite fluctuation, elle était là à une époque, elle n'est pas en permanence. Et la courbe entièreté, c'est la courbe de quantité et d'énergie émise par la planète vers l'espace extérieur. Alors, si la planète était en équilibre énergétique, alors, bon, il peut y avoir d'autres sources d'énergie hein, dans la planète. En particulier, il y a quand même l'énergie interne, l'énergie qui vient de l'intérieur de la planète. C'est à cause de cette énergie qu'il y a des volcans, qu'il y a des tremblements de terre, qu'il y a des sources chaudes. Enfin bon, donc c'est pas, ça existe. En particulier, la géologie est très largement dominée par la source d'énergie interne. Mais la source d'énergie interne est négligeable au regard de l'énergie reçue du Soleil. C'est typiquement 10 puissance moins 4. Donc aussi important que ce soit à longue échéance, pour ce qui est du climat et pour ce que je parle là, c'est négligeable. Bon, alors la courbe entièreté représente l'énergie émise par la planète vers l'extérieur. Alors la coordonnée horizontale, comme vous le voyez, c'est en 30 degrés, c'est en sinus de la latitude, c'est-à-dire que la coordonnée horizontale est proportionnelle à l'aire sphérique correspondante. La moitié de la surface de la Terre est comprise entre moins 30 degrés et plus 30 degrés d'altitude. Sinus 30 degrés égale 1,5. Bon, c'est bon. Donc, si la Terre était exactement en équilibre énergétique, c'est-à-dire qu'elle émettait autant d'énergie sur une année qu'elle en absorbe, eh bien, les deux courbes définiraient la même aire. Il y a très peu de choses, elles définissent la même aire. Alors, vous savez qu'au moins maintenant, la Terre n'est pas un équilibre énergétique, du fait du réchauffement climatique, elle reçoit un peu plus d'énergie, elle absorbe un peu plus d'énergie que l'on en émet, de l'ordre de 1 à 2 watts par mètre carré. Le déséquilibre thermique est actuellement de l'ordre de 1 à 2 watts par mètre carré. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'Hobson? Alors ça, bon, alors d'abord, ces quantités-là n'ont été connues que toujours il y a eu des satellites. Hein. Avant, il y avait des satellites, enfin la courbe de haut, on pouvait la connaître, mais les autres, bon, on ne savait pas. Hein. D'autre part, toute théorie de la circulation de l'atmosphère et des océans qui ne rendrait pas compte de ces courbes serait fondamentalement erroné. Si vous, en quelques jours de climat, si on veut avoir une description du climat, il faut expliquer ça. Bon, alors, pour ce qui est de mon cours d'aujourd'hui, je vais faire une description brève, succincte de la circulation générale de l'atmosphère et des océans. J'expliciterai les lois physiques qui gouvernent la circulation. J'expliciterai un jeu d'équations qu'on appelle les équations primitives, qui sont de façon générale utilisées dans la modélisation numérique de l'atmosphère et de l'équation primitive, dont je dis tout de suite que cette qualification de primitive est erronée. Puis je vous expliquerai, en fonction du temps qui me restera aujourd'hui, comment ces équations sont mises, ou ces lois physiques sont mises en œuvre numériquement. En particulier, elles nécessitent qu'elles soient discrétisées, c'est-à-dire ramenées à des mailles élémentaires et à des intervalles de temps élémentaires. Donc, elles ne sont pas mises en œuvre sur un continuum d'espace-temps. Elles sont mises sur un... Alors, vous aurez un peu les techniques pour faire cela. Bon, question là, en ligne. Vous m'entendez? Répondez. Chat. Alors, il y a d'autres questions sur le chat. Tout le monde, je vous entends, on entend bien. D'accord, très bien. D'accord, bon, ça va. En ligne, si vous avez des questions à poser, vous pouvez lever la main. Hein, ça se trouve quelque part sur le chat, vous pouvez le trouver. Bon, alors ça, c'est encore. Alors, le chat, comment je fais pour enlever le chat? Ça, c'est une description plus détaillée d'ici. D'accord. Alors ça, c'est une description plus détaillée du bilan énergétique de la Terre. Alors, à gauche, vous avez le rayonnement solaire. À droite, vous avez le rayonnement émis par la Terre sous forme de rayonnement infrarouge. Alors, le climat est une machine très compliquée, mais il y a quand même une chose simple, il n'y a quasiment pas de recouvrement dans les deux spectres, le spectre d'absorption depuis le Soleil et le spectre d'émission. C'est-à-dire que si vous êtes en orbite et que vous voyez un rayonnement qui vient de la Terre, si c'est dans le visible ou dans le proche infrarouge, vous savez que c'est du rayonnement solaire réfléchi, donc sans impact sur l'énergie de la Terre. Et si c'est dans l'infrarouge, vous savez que c'est quelque chose qui est émis par la Terre. Donc, alors, le rayonnement incident, vous avez ici 341 watts par mètre carré, c'est un quart de 1400, hein, c'est ça, qui arrive. Alors, il y en a un peu qui réfléchit, 79 réfléchis par les nuages atmosphères, 23 par l'atmosphère et 161 qui sont absorbés. Ça correspondait aux courbes que vous voyez précédemment. Alors, ensuite, une fois que cette énergie est absorbée, alors il y en a qui passent directement dans l'atmosphère. Laissez-moi marquer thermals, hier. Thermals, c'est simplement la conductivité thermique. Et puis, il y a évapotranspiration. Alors, ça, c'est l'eau de l'océan ou même des continents qui est évaporé par l'énergie solaire et puis qui, une fois dans l'atmosphère, se condense. Bon, ça, donc ça fait passer de l'énergie depuis là en dessous jusqu'au niveau supérieur dans l'atmosphère. Et puis vous avez tout le bilan infrarouge, le rayonnement infrarouge émis par la surface, absorbé, réémis. Alors vous avez ici, vous voyez, vous avez 396 watts par mètre carré émis par la surface, dont une partie importante est absorbée par l'atmosphère, par les gaz à effet de serre, qui absorbent, bien entendu, CO2, la vapeur d'eau, qui est un gaz d'atmosphère extrêmement puissant, le CO2, et puis d'autres, le méthane, d'autres. Et puis c'est réfléchi, et puis tout ça, et alors tout, ça en arrive à peu près à ce bilan-là. Alors, il faut pas... D'accord. Vous avez des valeurs ici qui s'équilibrent à peu près. Il ne faudrait pas vous imaginer que toutes ces valeurs ont été mesurées indépendamment et puis qu'on a fait le bilan de tout ça et qu'on s'est retrouvé qu'à 1 watt par mètre carré, 1 watt par mètre carré, ça a tombé juste. Non, non, non. Ben, ces valeurs sont plus ou moins ajustées sur la base d'innombrables mesures pour avoir un bilan à peu près vraisemblable. Alors ça, c'est la même chose dans une autre représentation un peu plus récente. Et qui arrive aussi à la conclusion que, enfin bon, compris par d'autres choses, que vous avez entre 1 et 2 watts par mètre carré de déséquilibre. Alors, est-ce que c'est marqué? Non, ça, il faut que je peux. Non, non. Voilà, 1 ou 2 watts par mètre carré. D'accord, bon. Non, bon, alors maintenant, comment ça bouge au point de vue? Alors. Oh, tiens. Voilà. Alors, les basses latitudes sont les plus chauffées. Bon, assez logiquement, l'air monte. La vapeur d'eau qui s'y trouve se condense et forme des nuages. Ce sont les couvertures nuageuses importantes des basses latitudes. Une fois en haut, par simple gradient thermique, hein, exactement comme un chauffage convectif à l'intérieur d'une pièce, où ça crée une cellule de mouvement. Alors vous avez dans l'atmosphère supérieure un mouvement de l'équateur ou des basses latitudes vers les latitudes plus élevées. Et puis, pour une raison qui va expliquer un peu plus en détail, ça devient instable et vous avez en retour un mouvement de 30 degrés de latitude vers les latitudes plus basses. Et vous avez donc une cellule qui est comme ça. Dans cette cellule, la partie supérieure est plus chaude que la partie inférieure. Bon, elle n'est pas exactement plus chaude. La température décroît avec l'altitude, on le sait très bien. Mais si vous prenez température, énergie interne plus énergie potentielle, elle est plus élevée que dans la phase de retour. Donc, ces cellules transportent de l'énergie depuis les basses latitudes vers les hautes latitudes. On appelle ça les cellules de Hadley. Bon, alors, je dis tout de suite que sur des planètes, que si, bon, alors, je vais revenir, enfin, sur les planètes qui tournent lentement, par exemple sur Vénus, qui tourne très lentement, les cellules de Hadley s'étendent à une latitude très élevée. Bon, sur la Terre, elles deviennent instables à peu près 30 degrés. Alors, ça, c'est la première composante, l'échauffement différentiel entre les hautes latitudes et les basses latitudes, et au premier degré, formation de ces cellules de Hadley, qui en gros sont à symétrie de révolution autour de l'axe terrestre. Hein. Bon, pas tout à fait. Par exemple, l'Himalaya, qui vient à modifier, d'où le régime des moussons, qui est même, comme pas le même, c'est pas la même chose en Inde et au milieu de l'océan. Mais fondamentalement, ils sont à symétrie de révolution. Alors, la deuxième composante, oui. Oui, la somme de l'énergie interne et de l'énergie potentielle est plus élevée dans les couches élevées que dans la branche supérieure de la cellule de Hadley que de la branche inférieure. Ce qui... Pardon? Ah, c'est... Bon, la condensation joue un rôle là-dedans, mais oui, effectivement, quand je dis énergie potentielle, il faudra aussi prendre en compte, votre remarque est pertinente, il faudra prendre en compte aussi l'énergie contenue dans l'eau. Mais compte tenu du prix de l'énergie contenue dans l'eau, oui, c'est plus important. Donc les cellules assurent un transport net d'énergie, les cellules de Hadley assurent un transfert net d'énergie depuis les basses latitudes vers les latitudes plus élevées. C'est comme ça que je voulais dire. Ça correspond d'ailleurs le fait que l'énergie totale est plus élevée dans la couche supérieure, dans la branche supérieure, que dans la branche inférieure de la cellule de Hadley, correspond aussi que le profil est convectivement stable. Bon, je ne sais pas si vous avez la notion de profil de stabilité convective. Bon, si vous ne l'avez pas, peut-être que j'en parlerai un jour, ce n'est pas l'objet de mon cours, mais ça veut dire que l'écoulement est convectivement stable. Donc, cellule, on dit que c'est une cellule directe dans la mesure où elle transporte de l'énergie depuis les basses latitudes vers les latitudes plus élevées. Alors, ça, c'est le premier ingrédient de la circulation, le gradient, la différence de température entre les basses latitudes et hautes latitudes. Alors, on pourrait croire qu'il y a le même problème entre le jour et la nuit, puisque sur la Terre, l'effet diurne est faible. Non pas qu'on ne s'en aperçoive pas, vous savez très bien que le soir, même en été, ben, il fait un peu plus frais que pendant la journée. Mais ça, c'est au niveau du sol. Si je vous présentais une courbe, comme je vous présentais dans quelques minutes, une représentation de la circulation générale de l'atmosphère à un moment donné, personne ne peut dire si c'est à quelle heure du jour ça a été pris. C'est bien de ce que la durée du jour est suffisamment brève sur la Terre pour que ça n'ait pas un impact important. Ça peut être différent sur d'autres planètes. Sur Mars, où l'atmosphère est très peu massive, eh bien, les effets d'urne sont beaucoup plus importants que sur la Terre. Bon, deuxième ingrédient, la circulation. Alors, je prends une particule qui part, mettons, de l'équateur avec une vitesse nulle par rapport à la Terre en rotation. Cette particule, elle s'en va vers les latitudes plus élevées, en branche supérieure, vers la cellule de Hadley. Si elle n'est soumise à des forces mécaniques qui sont localisées dans le plan méridien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de force mécanique dans le sens est-ouest, c'est uniquement dans le plan méridien, eh bien la particule va, le moment des forces mécaniques adjacentes à la particule par rapport à l'axe de rotation terrestre va être nul, et la particule va conserver son moment cinétique par rapport à l'axe de rotation. Alors, qu'est-ce que c'est que son moment cinétique? C'est U, petit u, ou j'appelle petit u, c'est une convention que tout le monde utilise, la vitesse zonale cotée positivement vers l'est dans un référentiel lié à la rotation, la vitesse relative par rapport à la rotation, plus la vitesse d'entraînement due à la rotation, qui est oméga, rotation terrestre, R, rayon de la planète, cosinus de la latitude. Ça, c'est la vitesse absolue dans le référentiel galiléen, multiplié par la distance de l'axe de rotation, c'est-à-dire R cosinus phi. Et si la particule n'est soumise, et R reste à R constant, à distance, et n'est soumise qu'à des forces dans le plan méridien, ben ça va être constant au cours du moment. Alors, je fais partir, alors sur la Terre, oméga, c'est 2 pi par 24 heures, et R, c'est 6 400 km. Je pars de U0 à l'équateur. Je vais jusqu'à 45 degrés. Cette équation-là montre qu'elle arrivera à la 45 degrés avec une vitesse dirigée vers l'est. L'est, puisqu'elle vient de l'équateur où elle avait une vitesse dirigée vers l'est beaucoup plus grande, de 329 mètres par seconde. À 45 degrés, je l'arrête et je la renvoie vers l'équateur. Elle arrive à l'équateur avec une vitesse dirigée maintenant vers l'ouest de moins 232 mètres par seconde. Donc, évidemment, il y a d'autres choses, en particulier des frottements. On n'obtient pas des vitesses, on n'observe pas des vitesses de cet ordre-là. On voit des vitesses de l'ordre extrême de 100 mètres par seconde, quelque chose comme ça. Mais on comprend bien que si au total il y a un équilibre, cet équilibre doit être tel que de la latitude moyenne, eh bien, l'écoulement va être dirigé d'ouest en est, dans le même sens que la rotation terrestre, tandis que dans les basses latitudes, il va être tiré d'est en ouest, c'est-à-dire en sens inverse. Et c'est ce qu'on avait remarqué, en particulier les navigateurs avaient remarqué rapidement, en particulier les vents alizés dans les basses latitudes, dont ils avaient expliqué aux voyous qu'ils étaient pour aller en Amérique, ben il fallait descendre de l'onde d'Afrique et puis prendre des vents, qui sont toujours là, c'est-à-dire qu'ils sont très réguliers et très petits, petit peu, les vents alizés. Et alors, ça a beaucoup intrigué les astronomes et physiciens. Et c'est un Anglais, George Hadley, qui a expliqué ça dans un article publié en 1735, qui est assez intéressant à lire. C'est dans un anglais vieillot assez amusant, et qui a expliqué ce que je viens de vous dire. Et c'est pour ça que la cellule que je dis s'appelle cellule de Hadley. Bon, alors Hadley, il était anglais, il était astronome. Il vivait au XIXe siècle. Il y a un autre Anglais, astronome vivant au XIXe siècle, qui s'appelle Halley. Il s'appelait Halley, connu par la comète de Halley. Ils sont quasi homonymes, ils ont vécu à la même époque, ils faisaient le même métier, ils étaient anglais, mais ils sont quand même différents. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, on peut étudier ça, et ça a été fait en particulier par des anneaux tournants, pour en voir un peu, et essayer de voir les effets combinés de la rotation, de l'échauffement différentiel et de la rotation. C'est ça, hein, c'est ça les deux ingrédients majeurs de... Alors, je fais une petite remarque parmi les forces mécaniques qui peuvent agir sur les fluides. Bon, ce que je vous ai dit, c'est de la thermodynamique, des variations de température qui implique des variations de pression, qui implique du coup des mouvements. Il y a au moins une autre force mécanique qu'on connaît, c'est la force des marées gravitationnelles, qui n'ont rien à voir avec les dynamiques, qui n'ont rien à voir dans le principe avec leur température. Ça peut interagir, mais c'est pas, c'est dû à l'action gravitationnelle, et les marées sont dues au fait que la surface de l'océan oscille en Bretagne et en Normandie, et puis de l'autre côté de la dehors, ça a à voir avec le fait que l'attraction gravitationnelle due à la Lune et au Soleil n'est pas la même au centre de la Terre, là où détermine le mouvement de la Terre, et à la surface de la Terre. Donc il y a une différence, il est un effet différentiel de la force gravitationnelle. Bon, alors ça, pour le moment, on ne pense pas que c'est un effet important sur le climat et la météorologie, sauf tout à fait localement, effectivement, en Bretagne, on peut savoir qu'il y a un effet météorologique des marées, mais ça reste extrêmement local. Pour la circulation générale de l'océan, bah, peut-être qu'un jour on s'apercevra que les marées sont quand même plus importantes qu'on ne le pensait. C'est pas impensable. Alors, je regarde le nombre de participants. 2 minutes. Oui, alors on peut étudier déjà l'effet combiné par des anneaux tournants. Alors, c'est un dispositif assez simple. On prend 2 cylindres verticaux, coaxiaux. On met un fluide entre les deux. On chauffe d'un côté, on refroidit de l'autre. Et puis, on fait tourner avec des vitesses différentes. Alors, par exemple, un temps comme ça, alors c'est ce dispositif-là. C'est un travail qui est fait par plusieurs scientifiques. En particulier, j'ai des collègues anglais qui ont fait ça, Peter Reed et Raymond Hyde et Peter Reed qui ont travaillé là-dessus. Alors, c'est ce qu'on relève d'expérience. Alors là, le fluide, l'anneau tournant, est vu de haut. C'est des photos prises par une caméra qui est mise au-dessus de l'anneau tournant et qui tourne avec les anneaux à la même vitesse. Alors, s'il n'y avait pas de. Alors, on chauffe le fluide extérieur et on refroidit le fluide intérieur. Ça fait un gradient de température. Un peu similaire au gradient de température entre l'équateur à l'extérieur et le pôle à l'intérieur. Bon, évidemment, il n'y a pas la sphéricité. Et puis, alors, s'il n'y avait pas de rotation, pas de nuage, eh bien, le mouvement serait simplement un mouvement convectif. Le fluide chauffé sur la face extérieure va vers la face intérieure, redescend et transporte de l'énergie depuis la face externe vers la face interne de façon purement à symétrie de révolution et sans vitesse azimutale, sans vitesse dans le sens perpendiculaire. Et puis dès qu'on met ça en rotation, eh bien, l'effet de conservation du moment cinétique que je vous expliquais se met en route et on voit apparaître, alors ça, ce sont des photographies prises par un expo, il y avait un machin, un flotteur à la surface supérieure du fluide qui visualisait le mouvement. Et alors, à petite rotation, alors vous avez les rotations qui sont indiquées ici. Alors, vous voyez, pour les petites rotations, c'est 1, c'est 0,41, c'est 0,41 radians par seconde. Ça va être 30 degrés, 30 degrés par seconde. La plus vitesse la plus grande, c'est combien c'est 33 6,4. 6,4, ça fait 2 pi, ça fait une rotation par seconde. Alors, à rotation faible, mais rotation présente, vous avez un mouvement qui est principalement azimutal. Alors ça, pour transporter de l'énergie, c'est peu efficace. Et alors derrière tout ça, il y a un principe de moindre action. Le système va se mettre dans un état bon, qui est assez efficace pour transporter de l'énergie. Et alors, cette circulation asymétrique d'évolution, pour une vitesse de rotation suffisamment grande, devient instable. Et on voit apparaître une onde dans le fluide, dans un référentiel avec les ions de rotation. Et puis 3, et puis 4, à mesure que la rotation augmente. Et puis ces ondes peuvent être stationnaires par rapport au cylindre en rotation, au contraire, peuvent commencer à osciller, enfin, à aller et venir. Et puis, à mesure que la vitesse augmente, on obtient de plus en plus d'ondes et on finit par obtenir quelque chose qui est à peu près chaotique. On ne voit plus beaucoup d'ordre. Donc, à mesure que la rotation augmente, on obtient un système de circulation de plus en plus complexe. A, des gradients de température constants. Évidemment, on peut tout faire varier, on peut faire varier la température, on peut mettre une montagne au milieu, enfin, on peut faire des tas de choses, et mes collègues ne s'en sont pas privés. Mais on obtient ici un système de rotation correspondant correspondant à la aux différentes combinaisons, aux différentes rotations. Alors, ceci, c'est un. Tiens, ça ne veut pas avancer. Pourquoi? Voilà, alors ceci, bon, c'est montré simplement, bon, en fonction des paramètres considérés. Alors, à delta T constant, on est sur une droite comme ceci. Vous voyez ici des points expérimentaux qui correspondent à ces différents schémas, qui se correspondent tous à un delta T constant entre les deux cylindres. Et puis, vous pouvez avoir pas d'onde, plus de turbulence, bon, des tas de choses. Alors, l'atmosphère, c'est un peu ça. À basse latitude, rotation faible. La rotation qui compte, c'est la rotation par rapport à la verticale locale. Hein. Bien sûr, il y a la force de gravité qui force tout cela à rester à la surface de la planète, ou à osciller peu, peut osciller en direction verticale. Donc, à basse rotation, on a une cellule de Hadley à peu près à symétrie de révolution. Et puis, à plus haute latitude, eh bien, comme dans les anneaux tournants, la circulation à symétrie de révolution devient instable. Et il se forme des ondes. Alors ça, c'est une courbe, figure. Alors, je vous explique un peu comment c'est, parce que ça, vous en allez avoir des dizaines, des figures de ce genre-là. Ça représente l'hémisphère nord. Vous avez le pôle nord ici. Et puis vous avez des trucs, alors bon, c'est difficile de voir la ligne des côtes, mais par exemple, vous avez ici, vous pouvez voir le sud des États-Unis, la basse Californie. Ah ben, c'est pas ça. La basse Californie ici, le golfe du Mexique ici. Alors maintenant, évidemment, si on veut faire plaisir à M. Trump, il faut parler du golfe d'Amérique, mais pas du golfe du Mexique. Que vous voyez ici. Donc, ça situe à peu près les choses. Et puis, alors, vous avez une ligne, des lignes ici. Alors, les lignes ici, elles représentent le géopotentiel à 500 hectopascal. Ça vous dit quelque chose? Bon, géopotentiel, c'est l'altitude, c'est GZ. 500 hectopascal, c'est la surface isobare. On utilise beaucoup la physique d'atmosphère. L'altitude, le niveau dans l'épaisseur d'atmosphère est repéré en pression grâce à l'approximation hydrostatique. Et 500 hectopascal, c'est la pression au sol, en moyenne, donc, au niveau de la mer, 1013 hectopascal. Donc 500 hectopascal, c'est le niveau qui sépare l'atmosphère en deux couches de masse à peu près égale. Alors, dans les hautes latitudes, l'atmosphère est plus dense, donc c'est moins bas, c'est de le côté de 5000, l'altitude est de côté de 5000 mètres. Et puis dans les basses latitudes, où l'air est plus chaud, évidemment, la même masse d'air occupe une hauteur plus grande, et c'est proche de l'altitude, on parle de 6000 mètres. Et alors vous avez le gradient général, le géopotentiel, qui correspond au gradient de température. Hein. Mais du fait de l'approximation hydrostatique, approximation géostrophique, vous savez ce que c'est l'équilibre géostrophique? Ah, pas absolument. Non. Alors, l'équilibre géostrophique, c'est le fait. Alors, j'hésite un peu à écrire au tableau parce que j'ai peur que, comme il n'y a pas de téléconférence, il y a simplement le Zoom, j'ai peur que les auditeurs qui sont en ligne ne voient pas ou m'entendent mal si je mets trop de mon objet. L'équilibre géostrophique, c'est le fait que dans les latitudes moyennes, j'en dirai un peu plus, bon, non, je dirai un peu plus quand je présenterai les équations. Pour le moment, sachez que du fait de l'équilibre géostrophique, les courbes d'iso-géopotentiel, d'iso-altitude, correspondent à peu près aux lignes du courant de l'écoulement. C'est-à-dire que l'écoulement tourne d'ouest en est suivant ces lignes-là. sauf dans les régions où la courbure est très grande, ou alors il y a un écart, l'équilibre sur le trafic. Donc ceci visualise aussi la circulation, les mouvements. Et alors ce jour-là, bah, vous aviez un trèfle à quatre feuilles dans la circulation automobile. Ce n'est pas habituel, hein, c'est pas, mais là, vous aviez donc un système qui n'a plus de symétrie de révolution, de toute évidence, et qui est au contraire constitué d'ondes en longitude. Alors ça, c'est un autre exemple, peut-être un peu plus réaliste. C'est vieux, ça date de 1984, mais la physique n'a pas suffisamment changé depuis, où vous aviez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 oscillations autour de l'hémisphère. Toujours hémisphère nord au milieu, le gradient général des géopotentiels, qui est le gradient de température à l'altitude, et puis là-dessus, les... Alors, ces structures sont constamment en train de bouger, s'amortir, se fondre l'une dans l'autre, se régénérer, et constituent la météorologie au sens ordinaire du mot. Prévoir ces structures, c'est prévoir le temps qu'il va faire. C'est ça, dans les latitudes moyennes. Dans les basses latitudes, c'est tout autre chose. Dans les latitudes moyennes, c'est ça. Et alors, c'est ça qu'on cherche à modéliser numériquement avec les modèles de prévision météorologique. Alors, si on voit maintenant uniquement dans un plan méridien, j'oublie le mouvement en direction en longitude. Eh bien, vous avez à basse latitude, dans chacun des hémisphères, une cellule de Hadley. Donc, il transporte de... Ah oui, alors dans cette situation-là, vous avez par exemple ici une onde ici, comme ça, qui ici va des basses latitudes vers les hautes latitudes, et puis l'écoulement revient vers les basses latitudes. L'écoulement qui va vers le pôle est en moyenne plus chaud que l'écoulement qui en vient. Donc, le transfert d'énergie est effectué par ces oscillations, par les différentes branches de ces oscillations. Qui transfère l'énergie depuis les basses latitudes dans les latitudes. Oui.
Premier mode qui est observé dans l'expérience de la performance.
Oui.
Est-ce que cette carte-là, c'est une oscillation entre les différents modes? C'est-à-dire que le système, il va osciller entre les
Ah,
différents.
oui. Les différents modes que l'on voyait sur l'anneau tournant, avec trois ou quatre. Oui, alors, ce que l'on voit dans l'atmosphère. Si je reviens à ça, c'est plus similaire à ce que, aux rotations ici, où les ondes fluctuent en permanence, y compris dans un référentiel lié au système de rotation, fluctuent en permanence et n'ont pas une structure bien établie et stable. Comme je vous disais, ça, le trèfle à quatre feuilles, c'est assez inhabituel. Je ne sais pas du tout si ça a été stable. Ça, c'est une courbe que ces choses-là ne sont jamais très stables. Certaines structures sont stables. Certaines structures tendent à durer assez longtemps. Par exemple, les vagues de froid, maintenant on en a moins, mais les vagues de froid qu'on observe en Europe occidentale, à certaines périodes, c'était dû à un type de situation qui est localement assez stable. Ça répond à votre question, oui. Bon, alors pour revenir, alors ce qui se passe dans le plan méridien, on a donc cellules de Hadley dans chacun des deux hémisphères qui transportent de l'énergie depuis les basses latitudes vers les latitudes plus élevées. Instabilité, le processus d'instabilité qui conduit à ces ondes, c'est le processus qu'on appelle l'instabilité barocline. Je ne sais pas si vous avez entendu l'expression, c'est intéressant d'en faire la théorie, mais enfin, ce n'est pas l'objet de mon cours. À latitude plus élevée, on observe alors, mais de façon beaucoup moins caractérisée, une cellule en sens inverse, qu'on appelle la cellule de Ferrel, mais beaucoup moins permanente et beaucoup moins caractérisée que la cellule de Hadley. Et même encore une autre cellule dans le sens inverse. Alors la cellule de Ferrel transporte plutôt de l'énergie en sens inverse, c'est-à-dire vers l'équateur, mais les ondes associées, eux, elles transportent de l'énergie vers l'équateur. Alors, ça, c'est le vent zonal, c'est-à-dire le vent est-ouest, pris en moyenne sur une année, en fonction de la latitude et de l'altitude remontée par la pression. Alors, là où c'est vert, c'est le vent dirigé vers l'est, Là où c'est pas vert, où c'est bistre, je sais pas quoi, c'est le vent dirigé vers l'ouest. Donc en particulier, à basse latitude, à une bande d'îles, dans les caches inférieures, les alizés, qui sont un vent. Bon, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voyager dans ces régions-là, mais par exemple, quand on va à Hawaï, j'ai une fois, c'est étonnant, quand il y a toujours un vent pas très fort, mais en permanence, hein, il n'y a pas du tout des coups de vent. Enfin, là, c'est absolument exceptionnel. Il y a une espèce de vent permanent. C'est le vent c'est ce qu'on appelait les alizés que les navigateurs de l'ancien temps connaissaient bien et utilisaient. Ils allaient en Amérique, d'Europe en Amérique, en descendant à latitude et en prenant les alizés vers l'Amérique, et ils revenaient vers l'Europe par des latitudes plus élevées. Donc, alors, ça, vous voyez, donc en moyenné sur une année, vous avez donc dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud un vent dirigé vers l'est, un peu plus intense en moyenne dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Et puis, alors, vous pouvez voir quelque chose, là, c'est pas. Si vous mettez sur une verticale donnée ici, en moyenne, ça c'est une moyenne annuelle, à un instant donné, ça peut être tout à fait différent. En latitude ici, vous voyez que la vitesse ici est dirigée vers l'ouest et ici vers l'est. Ça veut dire que la quantité, le moment cinétique associé est plus grand ici que là. Le moment cinétique, si on le compte positivement vers l'est. Donc s'il y a une cellule de Hadley, comme ça, eh bien, la branche supérieure non seulement transporte plus d'énergie que la branche inférieure, mais transporte plus de moments cinétiques, puisque le mouvement ici correspond à un moment cinétique plus grand, une particule individuelle, que le moment ici. Donc il y a un transport de moments cinétiques en latitude. Ce qu'il faut, s'il doit y avoir un équilibre dans la figure que je vous ai présentée, où je vous l'ai dit présentée, ce qu'il faut. Bon, ça ne veut pas réagir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que. C'est alors. Bon, dans cette figure, il faut qu'il y ait un transport de moments cinétiques depuis les basses latitudes vers les latitudes plus élevées. Et ce transport. On voit ici qu'il correspond au fait que la limite entre les vents d'est et les vents d'ouest n'est pas correspond pas à une direction verticale à la surface. Alors tout ça, c'est fortement modulé par les situations et en particulier par la saison. Alors ça maintenant, c'est une représentation des cellules de Hadley. Alors c'est dans un plan méridien, c'est la circulation moyenne dans un plan méridien. Alors sur une année en moyenne, vous avez deux cellules de Hadley, ici, représentées. Alors la courbe présenté, c'est ce qu'on appelle la fonction de courant, c'est le ligne du courant moyen, et plus les courbes sont serrées, plus le vent est fort. C'est la représentation des fonctions de courant. Alors vous voyez ici les deux cellules directes qui, en moyenne, dans l'hémisphère nord, l'hémisphère orienté à droite, est plus intense que dans l'hémisphère sud, en moyenne. Bon. Et puis ici, de part et d'autre, une cellule de Ferrel plus faible. Alors ça, c'est la moyenne annuelle. Là, vous prenez la distance décembre, DJF, des janvier, janvier, février. L'hiver boréal. Alors le soleil est dans l'hémisphère sud. Donc la différence, la frontière entre les deux cellules de Hadley, qui correspond à peu près à la latitude solaire, est dans le sud, et le gradient de température est beaucoup plus intense dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère d'hiver, que dans l'hémisphère sud. Donc la cellule est beaucoup plus intense dans l'hémisphère nord, dans l'hiver boréal. Et puis dans l'hiver austral, le rôle est inversé. Le soleil est maintenant à une latitude de l'ordre de 20 degrés, 20 degrés, enfin, 10 et 20 degrés latitude nord, et une cellule de Hadley beaucoup plus intense dans l'hémisphère sud. Donc ça, c'est la modulation de la circulation par l'effet saisonnier. Alors tout ça. C'est en gros, décrire en gros la circulation de la sphère, je pense que vous me croirez volontiers si je vous dis que tout cela, c'est ultra simplifié par rapport à la réalité qui est beaucoup plus complexe. Mais c'est quand même fondamentalement ce qui est vrai. C'est vrai. Alors, pour vous montrer un peu le genre de choses que je vous montrerai plus, ça, c'est des situations météorologiques. Situations météorologiques, hier, 1er avril, j'ai été prendre ça sur le site du Centre européen de Reading. Alors, qu'est-ce que cela représente? Quelle est la région représentée? Alors, c'est l'Europe, l'Atlantique proche et l'Asie proche. Alors, vous voyez ici la Grande-Bretagne, l'Irlande. La France est ici, l'Espagne. Et puis, alors ici, vous voyez par exemple la mer Noire est ici. Bon. Que sont les quantités représentées? Alors, il y a deux quantités présentées. Les courbes plaines, c'est encore une fois le géopotentiel à 500 hectopascales. L'altitude de la surface qui sépare l'atmosphère en deux couches de masse égale. Alors, vous avez le gradient général nord-sud. Et puis, vous avez les oscillations du jour. Alors, hier matin, vous voyez, vous avez un écoulement qui venait du sud, sur l'Atlantique proche, qui passait sur les îles britanniques et qui remontait vers le sud de l'autre côté. Ça, c'était la situation hier matin à 0 h UTC. Bon, l'heure, c'est UTC. UTC, ça veut dire universel. C'est U, c'est universel. T, c'est temps. Et QC, c'est coordonnées. Ce n'est pas du français, ce n'est pas de l'anglais. C'est pour que personne ne soit vexé. On a mélangé de façon que c'est ni du français. C'est maintenant le temps officiel. C'est ce qu'on a appelé le temps, longtemps le temps de Greenwich. D'ailleurs, quand je fais ma réservation de Zoom sur cette séance, l'heure était marquée en temps Greenwich, GMT. Ça n'existe plus, GMT. Il fut un temps où c'était à Greenwich, effectivement, il y avait des astronomes là, couchés sur une couchette, qui regardaient dans une lunette et puis qui notaient là, paf, ils appuyaient sur un chronomètre à l'instant où une certaine étoile passait exactement dans le champ de. Ça, ils le font peut-être toujours, mais c'est plus ça qu'on définit le temps. Maintenant, le temps est défini par des horloges atomiques, il y en a une dizaine dans le monde, qui mesurent les oscillations de certains atomes. Donc, on considère que compter les oscillations, c'est plus précis pour déterminer le temps que de regarder le mouvement des astres. De ces horloges, il y en a une ou deux qui se trouvent à l'Observatoire de Paris dans les catacombes, là, dans les souterrains, mais s'ils sont à l'Observatoire de Paris, c'est pour des raisons uniquement historiques. Parce que c'était à l'Observatoire qu'on faisait des astres, donc on a mis l'horloge atomique au même endroit, mais ça n'a plus rien à voir. Donc, il y a une... Et alors, on a donc le temps UTC, qui d'ailleurs dérive petit à petit par rapport au temps astronomique. C'est une autre histoire. Bon, enfin, ça, c'est 0 h UTC hier matin. Alors, ici, vous avez une prévision. Oui, alors, je vous montre ça comme si c'était vrai. En fait, ce n'était pas vrai. Ça, c'était une prévision à échéance de 5 jours. Et puis, ça, c'est ce qui a été observé hier. Donc, vous avez une prévision à échéance de 5 jours. Ah oui, et la prévision. Alors, vous voyez que ça se ressemble beaucoup, hein. Donc ça se ressemble. Je vais pas. Bon, j'expliquerai. Ah oui, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le géopotentiel. À 500 hectopascales, les courbes pleines. Et puis, les couleurs, c'est la température à 850 hectopascales, c'est-à-dire un mi-chemin. Un mi-chemin, pas tout à fait un mi-chemin, puis il reste 250, il reste 300. Mais c'est un peu la même chose, parce que du fait de l'approximation hydrostatique, le géopotentiel, c'est l'intégrale de la température. Donc, la température au milieu de la couche, à 850 hectopascales, ce n'est pas très différent de l'altitude au sommet de la couche. Hein, c'est un peu la même chose. Donc, c'est très corrélé. Vous voyez bien que les couleurs qui représentent la température, les variations des couleurs, correspondent tout à fait au. Donc, c'est un peu redondant comme impression, comme un fond. Mais vous voyez que le bleu, c'est froid, le rouge, c'est chaud, et puis le jaune, c'est entre les deux. Alors, donc, vous avez ici prévision à 5 jours et observation après. Ça se ressemble. Alors, on peut dire, mais oui, mais c'est toujours la même chose. À cette période de l'année, vous auriez de toute façon, vous auriez ça. Donc, avoir prévu ça, ce n'est pas particulièrement génial. Peut-être. Mais ça, c'était le point de départ, 5 jours avant. À la date du. C'est combien? On n'arrive pas à lire. Le 27 mars. C'était le 27 mars. Donc, ça, c'est le 27 mars. Ça, c'est le 1er avril. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Ça ressemble. Il y a du bleu dans les hautes latitudes, à l'ouest, mais pas à l'est. Il y a du rouge dans les latitudes plus basses, à l'est, mais pas à l'ouest. C'est quand même des analogies. Mais enfin, le détail est nettement différent. Hein. Cette espèce de. Ça s'appelle une dorsale. si on voit le relief du géopotentiel, ça correspond à une crête qui s'avance dans des régions d'altitude plus basse. Par contre, ça s'appelle, je ne sais même plus comment on appelle ça, on appelle ça trough en anglais, et en France, je n'en rappelle plus. Bon, enfin, c'est de relief, pardon. Un talweg, bien sûr, un talweg, bien sûr. On appelle ça un talweg. Vous voyez que la dorsale, Jean-Charles, il n'y était pas. Alors, pour voir ça un peu plus, je vous en présenterai plus. La fois prochaine, je vous présenterai plus sur les prévisions, les performances des prévisions. Et alors, j'ai sorti une prévision, parce que quand on voit sur le site du Centre européen, qu'on voit la prévision du jour, on ne peut pas remonter loin dans le temps. Ou du moins, j'ai pas, je ne suis pas arrivé. Mais pour aller dans le futur, on peut voir les prévisions à 10 jours. Alors j'ai regardé les prévisions faites à partir d'hier matin pour pour le 10 avril, c'est-à-dire dans 8 jours. Ça, c'est la prévision pour dans 8 jours. Alors, le 11 avril, le prochain cours, je vous montrerai la réponse. Je pourrai voir si cette prévision à 10 jours était bonne ou mauvaise. Bon. Alors, une autre chose importante, vous pouvez aller sur le site du Centre européen. C'est pas très clair. Bon, il faut un peu tâtonner, un peu y aller ici et là avant de trouver les choses qu'on cherche, mais on finit par les trouver, hein, on finit par les trouver. Alors, une chose que vous connaissez, c'est l'effet papillon. Une petite erreur dans les conditions initiales conduit rapidement à une largeur dans les prévisions. Alors, ça, c'est un exemple ancien, mais c'est toujours valide. Le Centre européen de résine et d'autres services météorologiques, en particulier Météo France, font désormais, depuis un certain nombre d'années, des prévisions d'ensemble. C'est-à-dire, au lieu de prendre un état initial, de faire tourner le modèle sur 2, 3, 5, 10 jours, ils prennent un certain nombre d'états initiaux, censés échantillonner l'incertitude sur l'état initial, et font des prévisions à partir de ça. Alors ça date de 1993, janvier 1993. C'est tout le moment où le Centre européen de résine a commencé à faire ses prévisions d'ensemble. Alors à cette époque-là, il y avait des ensembles de 32, je crois, oui, 4 fois 8, 32. Alors quelle est la région? Alors là, c'est toujours la même chose, c'est l'Europe, l'Europe occidentale. Alors par exemple, vous voyez ici, il faut vraiment, vous voyez ici, vous avez ici la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne. Et puis vous avez encore l'Islande au nord, et puis ça va jusqu'où vous avez où il y a la mer Noire, enfin l'Italie et la mer Noire. Donc c'est l'Europe occidentale. Bien entendu, le modèle il est global. Donc ça, c'est simplement un détail dans une prévision qui est globale. Alors, ce sont des prévisions à 7 jours, 168, oui, ça, 7 jours. Les conditions initiales correspondantes. Comme vous êtes ici dans la salle, vous ne verriez pas de différence. Vous faudrez regarder dans des petits détails, dans les isolignes. C'est toujours la quantité, c'est toujours le géopotentiel, l'ascenseur topospatial. Alors, à 7 jours, ce sont ça les prévisions. Alors, c'est assez diversifié. Par exemple, vous voyez, vous pouvez voir que celle-ci et celle-là sont nettement différentes. Ici, vous avez un écoulement qui vient de l'Atlantique, zonal, qui vient sur l'Europe, ça veut dire un temps assez ordinaire, frais, mais sans plus. Un temps d'hiver tout à fait banal, un peu frisqué, peut-être un peu de pluie. Bon. Ici, pour la suivante, vous avez une nouvelle zone de haute pression ici. Bon. Bien sûr, les maxima et minima du géopotentiel correspondent à peu près aux maxima, aux minima de la pression au sol. Ici, vous avez une zone de haute pression avec un écoulement qui monte et qui va contourner la haute pression qui se trouve au-dessus de la Scandinavie et qui redescend sur l'Europe et sur l'Allemagne. Alors ça correspond à un vent très froid et à une vague de froid sur l'Allemagne. Et ce genre de situation, quand il se produit, est assez stable, je peux dire, à un certain temps. Donc vous voyez que à partir de conditions initiales à un instant zéro, les prévisions à 7 jours peuvent être tout à fait différentes. C'est l'effet papillon, bien connu, mis en évidence par Edward Lorenz sur un système dont la signification météorologique était contestable, mais qui est confirmée par la météorologie, qui dit qu'un papillon bat des ailes, et la conséquence, c'est qu'il pourrait y avoir un cyclone 10 jours plus tard, là où il n'y aurait pas eu si le papillon n'avait pas battu des ailes. Le coup du papillon, ce n'est pas forcément vrai, parce que la perturbation causée par un papillon à très petite échelle peut très bien être amortie par viscosité. Par contre, une éruption volcanique, ça peut faire le. Bon. Alors, un autre exemple, encore un peu ancien. Alors, j'ai montré celui-là parce que là, dans cette expérience, les différences étaient uniquement dans les conditions initiales. À part ça, le modèle numérique était exactement le même. Oui? Pardon? Ah, comment? Qu'est-ce qu'on fait de la prévision d'ensemble? Oui, alors qu'est-ce qu'on en fait? Effectivement. Bon. Alors, ce qu'on en fait, c'est on voit. Bon, enfin, ce qu'on en fait, si on en tire essentiellement des probabilités d'occurrence. C'est ça, d'après le nombre d'éléments. D'ailleurs, je ne sais plus si. Il y a un moment où les prévisions météorologiques qui étaient distribuées me présentaient sur certaines chaînes météorologiques étaient affectées d'un indice de confiance. Je ne sais pas s'il existe toujours. L'indice de confiance était issu de ces prévisions d'ensemble. Quand la gondole s'est dégagée, c'était que la prévision d'ensemble montrait peu de dispersion. Et c'est vrai, c'est-à-dire statistiquement, quand la prévision d'ensemble présente une grande dispersion, eh bien oui, la certitude, en gros, l'état à observer après coup est à peu près distribué comme le prévoyait la prévision d'ensemble. Donc il y a vraiment une information. Oui.
Chacune des prévisions est issue d'un état initial différent. C'est-à-dire qu'à un état initial donné, on a une prévision
Ah
qui
oui, dans cette courbe-là, il y avait autant d'états initiaux, 32, qu'il y a de résultats.
ne pourrait pas aussi calculer pour un état initial différentes prédictions en prenant compte des incertitudes sur la prédiction à partir de ce même état initial.
Ah, les incertitudes dans le modèle, au cours de la prévision. Oui, ben là, c'est exactement ce que j'allais dire. Ici, là, la différence entre ces différentes prévisions, c'était uniquement l'état initial. Ici, fait quelques jours plus tard, pour le jour où le cyclone Katrina a frappé la ville de la Nouvelle-Orléans, le 29 août 2005, ça fait déjà 20 ans, là, il y avait des différences dans les conditions initiales. Et dans le modèle numérique, donc les différences n'étaient pas uniquement l'incertitude sur l'état initial, mais l'incertitude sur le modèle numérique, qui lui-même est incertain. Donc là, les deux étaient cumulés. Et précisément, je pense que je réponds à votre question, maintenant les deux sont pris en compte. Et alors, donc là, ce sont des prévisions pour l'instant où le cyclone Katrina a frappé la Nouvelle-Orléans, c'est la figure que vous voyez en haut. Alors vous voyez ce que c'est au point de vue, c'est le sud des États-Unis, la côte, la Floride, Nouvelle-Orléans se trouve ici, puis vous avez ici Cuba, et vous avez ici la pointe du Yucatán au Mexique. Encore une fois, le golfe du Mexique. Alors ça, c'est ce qu'on a observé en plein coup, avec le cyclone en plein sur la Nouvelle-Orléans. Alors, vous savez, enfin bon, c'est déjà assez ancien, mais la Nouvelle-Orléans se trouve en très grande partie en dessous du niveau de la mer et est protégée par des digues. Et ce jour-là, de fait, des précipitations, de la dépression qui évidemment fait monter l'eau, et puis des forces, eh bien, les digues ont cédé, beaucoup de digues ont cédé, et l'eau a envahi la ville de Nouvelle-Orléans, et il y a eu un nombre de victimes, je ne rappelle plus le nombre de victimes, mais un nombre de victimes assez grand. Bon. D'ailleurs, la population de la Nouvelle-Orléans, beaucoup de gens sont partis, ils ne sont pas revenus. Hein, ça a été. Alors, ça, ce sont des prévisions. Alors maintenant, il y en a un peu plus. Je crois qu'il y en a maintenant 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a maintenant 50. Pour échéance de 3 jours et demi. Alors, vous voyez qu'il y en a qui prévoient un cyclone comme celle-ci à peu près au bon endroit. Et puis il y en a d'autres qui ne prévoient pas d'un cyclone dans le voisinage de la Nouvelle-Orléans, à 3 jours et demi d'échéance. Alors, ce qu'on fait de ces prévisions, ben, on met, en fait, c'est une barre d'erreur qu'on peut quantifier en termes de probabilité explicite. Alors, je montrerai la fois prochaine, par exemple, un exemple qui a réussi de façon spectaculaire, en ce sens qu'un événement très inhabituel a été prévu avec une probabilité très élevée. Quelquefois, ça marche très bien, ça ne marche pas toujours très bien. Hein. Bon, alors pour montrer que ça, ce n'est pas de l'histoire ancienne et que c'est toujours vrai, là, je vous ai présenté alors une prévision d'ensemble, faite encore, oh, c'est toujours tout ça, c'est toujours le Centre européen de Reading. Alors, ça, c'est pour hier matin. Alors, c'est des prévisions à échéance de 768 jours. Bon, ce qu'on peut trouver sur le site du Centre européen, c'est pas très cohérent. Pour certains diagnostics, c'est à 7 jours, pour d'autres, c'est à 5 jours. Enfin, bon. Et alors, vous avez ici toujours l'Europe occidentale. Bon. Et vous avez alors est-ce que c'est la pression au sol ou est-ce que c'est. Oui, c'est la pression au sol, au niveau de la mer, au niveau de la mer, la pression au niveau de la mer, et la température à 850 hectopascal. Et alors là aussi, ben, ce n'est pas très difficile à déchiffrer, hein, je reconnais, mais vous pouvez voir donc à 7 jours quand même les prévisions. Donc, les prévisions pour hier étaient tout à fait différentes. Par exemple, vous aviez ici, alors, sur ce nord, des gradients qui sont essentiellement est-ouest, les isolignes sont nord-sud, tandis que ici, les isolignes sont est-ouest. Donc quelque chose de tout à fait différent. La figure est pas jolie, mais donc, ça reste vrai. Hein, il y a toujours cette très grande dispersion des prévisions. Dans des prévisions d'ensemble. Mais il y a un vrai une vraie information, en ce sens que, à l'occasion, je pourrais peut-être vous le dire un peu plus, quand la dispersion, quand statistiquement, la réalité observée après coup tombe bien dans la marge d'incertitude, statistiquement, tombe bien dans la marge d'incertitude issue de la prévision d'ensemble. Donc il y a vraiment une information utile. Bon. Alors ça, c'est associé au nom d'Edward Lorenz, qui avait. Mais en fait, l'idée avait existé depuis longtemps, puisque Henri Poincaré, dans un bouquin qui est publié en 1908, écrivait ça. Pourquoi les météorologistes ont-ils tant de peine à prédire le temps avec quelque certitude? Pourquoi les chutes de pluie et les tempêtes elles-mêmes nous semblent-elles arriver au hasard, de sorte que bien des gens trouvent tout naturel de prier pour avoir la pluie ou le beau temps, alors qu'ils jugeraient ridicule de demander une éclipse par une prière. Nous voyons que les grandes perturbations se produisent généralement dans les régions où l'atmosphère est en équilibre instable. Les météorologistes voient bien que cet équilibre est instable, qu'un cyclone va naître quelque part, mais où ils sont hors d'état de le dire, un dixième de degré en plus ou en moins, en un point quelconque, le cyclone éclate ici et non pas là, et il étend ses ravages sur des contrées qui leur est épargnée. Si on avait connu ce dixième de degré, on aurait pu le savoir d'avance, mais les observations n'étaient ni assez serrées, ni assez précises, et c'est pour cela que tout semble dû à l'intervention du hasard. Bon, on ne peut pas dire plus explicitement la sensibilité de l'évolution de l'atmosphère à l'occurrence, comme ici, en ici. Alors je signale que Poincaré, et Henri Poincaré, est le créateur de ce qu'on appelle maintenant la théorie des systèmes dynamiques. La théorie des systèmes dynamiques, c'est l'immense problème suivant. On a un système physique, économique, qui évolue suivant des lois, peut-être des lois parfaitement connues, ou des lois dans lesquelles il y a une incertitude, et on pose des problèmes. Quelle est l'évolution à long terme? Est-ce qu'il y a des points d'équilibre? Ces points d'équilibre sont-ils stables? Quel est le comportement asymptotique? Est-ce que le système va tendre vers un état d'équilibre asymptotique ou au contraire, est-ce qu'il va osciller indéfiniment? Est-ce qu'il va prendre des oscillations périodiques ou au contraire fluctuer indéfiniment sans qu'on sache? Ça, c'est la théorie du système dynamique, qui est une théorie absolument immense et qui a pris une grande importance dans des tas de domaines, en particulier dans l'étude de la météorologie et plus encore peut-être du climat, parce que le climat, c'est l'évolution du système climatique dans les dizaines d'années à venir. Donc la théorie, c'est Poincaré qui en fait l'a créée, cette théorie. Il a coincé, il est arrivé devant des difficultés. Alors là, il a dit, là, je coince, je coince. Et quand des ordinateurs électroniques sont devenus disponibles, alors là, on a pu faire des tas d'expériences numériques qui ont permis de beaucoup mieux explorer les différentes possibilités et, en définitive, de mieux comprendre ce qui se passe. Mais ce que j'insiste, c'est sur quoi j'insiste, c'est que bien que Poincaré soit le créateur de fait de ce qu'on appelle maintenant la théorie des systèmes dynamiques, il parlait simplement d'équations différentielles. Ce texte-là ne l'a pas écrit dans le contexte de son étude des systèmes dynamiques, mais il commentait comment la notion, le mot hasard est utilisé dans la vie courante pour désigner en fait des réalités tout à fait différentes. Il n'y a pas un mot à changer, hein, ce qu'il écrivait il y a plus d'un siècle. Et là, on disait simplement, on dit que la météorologie est au hasard, mais ce n'est pas du hasard, c'est parce que nous ne connaissons pas bien l'état de l'atmosphère et la physique associée. Mais ce n'est pas le hasard. C'est sur quoi il voulait insister. Bon, alors ça, c'est la version anglaise du même truc. Alors l'océan, ben, l'océan, c'est un peu la même chose. La physique de base est bien entendu la même. Alors l'absorption, alors que dans l'atmosphère, l'atmosphère est surtout chauffée par le bas, par le rayonnement qui a traversé l'atmosphère, absorbé au niveau de la surface des océans ou au niveau des continents, puis passe dans l'atmosphère. Dans le cas de l'océan, l'absorption est limitée aux couches supérieures. Je ne sais pas s'il y en a qui ont jamais fait de la plongée sous-marine, mais si vous avez obtenu qu'à 30 ou 40 mètres de profondeur, il fait déjà beaucoup plus sombre que la surface. Donc, et alors, la circulation, au moins en surface, est due largement à la force du vent qui agit sur le survol de l'océan. Mais alors, des différences, les bassins océaniques sont fermés, pas totalement, mais largement fermés, donc il n'y a pas toute, quelque sorte, la circulation est beaucoup plus limitée qu'en un sens que dans l'atmosphère. L'importance de la salinité, qui agit fortement sur la densité du fluide, et qui a un rôle important. Ce qui se passe, c'est que si une masse d'eau, par exemple, devient plus salée et chauffée, l'eau s'évapore, le sel reste, et à un moment, la densité augmente, et à un moment, la densité peut devenir supérieure à la densité des couches inférieures. Du coup, ça va basculer. Ça va basculer. Enfin, c'est ce qu'on appelle la circulation thermohaline. Une autre différence, c'est que les constantes de temps dans les océans sont beaucoup plus grandes que dans l'atmosphère. Une constante de temps de quelques jours dans l'atmosphère, ça se compte en semaines ou en mois dans l'océan, du point de vue de la réaction du système. Les échelles de temps sont différentes. Alors ça, c'est une représentation un peu schématique de la circulation des océans en surface. Alors vous avez des grands tourbillons de chacun des océans océaniques. Avec, bon, je n'insisterai pas beaucoup, du côté est, un écoulement assez fort, le Gulf Stream dans l'océan Atlantique, le Kuroshio dans le Pacifique, compensé par un mouvement en sens inverse, non? Alors, le courant est, le courant sur le bord est, et sur le bord ouest est plutôt chaud, tandis que le courant sur le bord est est plutôt froid. Ce qui va encore correspondre à un transport d'énergie nette depuis les basses latitudes vers les latitudes plus élevées. Et puis vous avez des courants de surface, en particulier du côté de l'océan, bon, qui forment un système assez complexe. Tout ça n'est pas très bien connu. C'est beaucoup moins connu, la circulation des océans, qui est beaucoup plus difficile à observer, et beaucoup moins connue que la circulation de l'atmosphère. Et puis alors il y a aussi, ça on le sait depuis quelques dizaines d'années, une circulation profonde, dite thermohaline. Thermo, ça veut dire chaleur. Aline, c'est sel, hein, c'est en grec. Sel, se dit selos comme dans halogène. Où la densité joue un rôle important. Alors voilà, une circulation profonde est nettement différente. Il n'y a plus ces courants de surface que vous voyez. Et en particulier dans l'Atlantique, il y a une circulation de surface, en gros, une circulation qui est dirigée, enfin pas tout à fait de surface, mais en profondeur, qui est dirigée vers le nord, compensé en profondeur encore plus grande par une circulation dirigée dans le sud. Et dans l'Atlantique, le transfert global est largement lié par une composante qui s'étend sur toutes les latitudes de l'Atlantique. Contrairement à ce qui se passe dans l'atmosphère, où il n'y a pas de transfert d'énergie massif entre les deux hémisphères. Alors ça, c'est la circulation thermohaline, on explique, on utilise son expression, l'expression de conveyor belt. Une conveyor belt, c'est une chaîne de montage là où les objets passent devant les ouvriers qui rajoutent les tonnes comme ça, comme ça, le circuit. C'est connu de façon, ça fait quelques dizaines d'années que c'est connu, et c'est encore très mal connu en particulier parce que, comme je vous le disais, les constantes de temps sont très grandes. Il y a des choses qui se produisent dans l'océan à des échelles de plusieurs dizaines d'années ou peut-être plusieurs siècles. Donc maintenant que ça fait 40 ans qu'on observe ces choses-là, on n'est pas du tout sûr de ce qu'on aura, si c'était un demi-millénaire plus tôt, ou ça sera le siècle prochain. Hein. Donc c'est encore très mal connu. Mais il n'y a aucun doute que la physique est la même, fondamentalement, la physique est la même, mutandis, mutandis. Alors pour terminer, ça c'est une représentation, autant que l'on puisse l'avoir obtenue, de transfert latitudinal d'énergie effectué à l'intérieur de la planète. Celui qui explique ce qu'on voyait sur la première figure que je vous ai montrée. Alors, là, il est positivement vers le nord, donc il est positif dans l'hémisphère nord, négatif dans l'hémisphère sud. La latitude est montrée ici, et ça, c'est la coordonnée orientale, c'est le flux. Alors, vous avez le flux d'énergie transportée par l'atmosphère. L'unité, c'est le pétawatt. Un pétawatt, c'est 10 puissance 15 watts. Donc, à une latitude donnée, ce qui se passe au travers de cette barre de latitude, ça se compte en pétawatts. L'énergie par unité de temps. Alors, vous voyez quand même que c'est, dans les conceptions actuelles, parce que ça peut être encore autre ici, c'est essentiellement l'atmosphère, les courbes rouges, qui effectuent la. Tiens, comment ça se fait? J'ai plus mon pointeur. J'ai plus mon pointeur. Comprends pas. Bon, j'ai plus mon pointeur. Bon. Mais vous voyez que c'est l'atmosphère, la courbe rouge, qui assure l'essentiel du transfert d'énergie. L'océan, contrairement à ce que vous pensez, en particulier dans sa grande, évidemment, chaleur massive beaucoup plus grande, n'effectue, la courbe bleue, n'effectue qu'une fraction du transport d'énergie total. Bon, mais ça, hein, c'est encore peut-être assez incertain. Je ne dis pas que dans 10 ans, on présentera les mêmes courbes. Hein. Bon, là, y a-t-il des questions? Alors, quelle heure est-il avec tout ça? Ça fait 1h34 que je prends. 1h34, 11h qui a été le partage. D'accord. Bon, ah ben, à là, mon prêteur a revu un mystère. Bon, alors après cette description largement qualitative et quand même simplifiée, mais je crois quand même que j'ai dit l'essentiel, quelle est la physique plus précisément qui résout ça? Alors, la physique, ben, pas de problème. La conservation de la masse, la conservation de l'énergie et la conservation de la quantité de mouvement. Alors, dans ce cas particulier, comment ça s'exprime? Alors, la conservation de la masse s'exprime par l'équation qui est ici, qu'on appelle l'équation de continuité, ce qui ne veut strictement rien dire. Mais c'est comme ça qu'on appelle, et qui dit que la dérivée temporelle de la masse volumique du fluide, une dérivée écrite comme c'est l'usage dans ce domaine de recherche, par une dérivée par des dés majuscules. Une dérivée particulière obtenue en suivant, évaluée en suivant la particule dans son mouvement. On dit aussi est dérivée lagrangienne. Vous savez ça, hein? Dérivée lagrangienne, dérivée eulérienne. La dérivée eulérienne, c'est la dérivée par rapport au temps en un point fixe. Le fluide s'écoule et on prend la dérivée par rapport au temps. Une genre de température, la dérivée de température qu'on obtient, c'est une dérivée eulérienne. Si on suit la particule dans ce mouvement, c'est une dérivée lagrangienne. Et la physique s'exprime naturellement en termes de dérivée lagrangienne, bien sûr. Alors, d sur dt plus rho divergence de u égale 0. U, c'est la vitesse. La conservation de l'énergie. Je prends l'énergie d'un terme fluide, l'énergie par unité de masse, que d'un petit e, et dE sur dt, c'est égal seulement au travail des forces de pression qui agissent sur la particule fluide. Alors, c'est ce qu'on exprime souvent par moins PD, par PdV. Bon, si moins PdV, si dV ou V est le volume massique, si dV est négatif, l'énergie reçoit, la particule reçoit de force de pression travail et communique de l'énergie à la particule. Donc, c'est moins PdV qui dit que l'équation deviendra plus PdV. Et puis, comme V, c'est l'inverse de la masse fluide du fluide, entre dE sur dT, moins P sur dE, dρ sur dT, égale Q. Alors, dρ sur dT, c'est le même qui ici. Alors, Q, bah, c'est tout. C'est tout ce qui entre dans le système. C'est le rayonnement solaire absorbé ou émis, la conduction à l'intérieur de l'atmosphère, à l'intérieur de l'atmosphère, il y a des flux de chaleur internes à l'atmosphère, les flux de chaleur à la surface du continent ou de l'océan, il y en a aussi, et puis aussi tout ce qui peut changer la température du fluide parce qu'il y a au moins un composant secondaire, l'eau. Qui peut changer de phase dans l'atmosphère. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux choses simples dans l'atmosphère. Je vous ai dit par exemple que le rayonnement solaire incident était dans un modèle spectral qui ne recouvre pas le rayonnement infrarouge émis par la planète. C'est une chose simple. Par contre, il y a des choses compliquées. Il y a l'eau qui peut exister sous ces trois phases, qui ne se gêne pas pour changer de phase, avec émission ou absorption de chaleur latente, ce qui a un influx sur le terme Q ici. Bon. Et puis ensuite, vous avez la conservation de la quantité de mouvement. Alors, dU sur dt, la dérivée temporelle de la vitesse, du vecteur vitesse, égale alors la force de gradient de pression, moins 1 sur rho gradient de p, oui, alors plus 1 sur rho gradient de p, si on le met à gauche, le terme égal. Alors, on se place là, plus la gravité de la direction verticale. Alors, on se place toujours, c'est nullement indispensable, dans un référentiel lié à la terre-rotation. Et je vous l'ai quand même vu quand je vous ai expliqué le bilan de moment cinétique, je me suis quand même placé dans un référentiel galiléen pour me trouver la formule. Donc la gravité, c'est la gravité apparente, prenant en compte la rotation de la Terre. Plus, alors si on se place dans un référentiel en rotation avec la Terre, la force de Coriolis, qui est égal à 2, l'accélération, à 2 fois oméga, où oméga est le vecteur rotation de la Terre, multiplié vectoriellement par la vitesse relative, U. Bon, la force de Coriolis est ici, et vous savez que même si dans la vie ordinaire, la force de Coriolis, on la connaît pas beaucoup, on la voit pas beaucoup, elle a une forte importance pour la météorologie et la sonographie. Le bilan d'énergie de moment cinétique dont je vous ai parlé tout à l'heure est représenté dans l'équation par la force de Coriolis, l'accélération de Coriolis, il ne faut pas dire force, faut dire, par l'accélération de Coriolis, égale tout le reste. Alors tout le reste, qu'est-ce que c'est? C'est les forces de friction à l'intérieur du fluide, les forces de friction entre le sol, entre l'atmosphère et l'océan. Et puis aussi sur les montagnes. Si j'ai une chaîne de montagnes avec d'un côté des fortes pressions, de l'autre côté des forces de pression plus faibles, ça forme une force. Ça met une force sur le continent. Les Andes, par exemple. Les Andes, par exemple. Et donc, il faut le prendre en compte. Il y a interaction par pas vraiment de la friction, mais bien une force mécanique de pression différente d'un côté et de l'autre de la montagne. Donc, F contient tout ça. Alors là-dedans, j'ai la masse volumique rho, j'ai l'énergie interne E, et puis j'ai la pression P, d'ailleurs c'est ici. Donc pour que je puisse aller plus loin, il faut utiliser une relation entre ces quantités. Alors il y a une équation d'état qui relie à tout instant la pression, la masse volumique et l'énergie interne. Alors dans le cas de l'atmosphère, on prend la loi des gaz parfaits, qui est que P sur rho égale RT, où R est la constante des gaz parfaits pour le gaz considéré, qui dépend de la masse molaire de l'argon considéré, et E, c'est égal à CVT. CV, c'est la chaleur massive qui a un volume constant. Donc là, j'ai, si je peux, alors là-dedans, bah, bien sûr, tout ça, le moteur de la circulation, c'est le terme Q. C'est ça qui fait que ça bouge. Donc si je suis capable d'estimer Q en tout lieu à un tout instant, et aussi d'estimer F en tout lieu à un tout instant, j'ai un système d'évolution. Si je me donne un rho au départ, un O au départ, un U au départ, j'ai les dérivés par rapport au temps de tout cela. Donc, je peux passer dans le futur. Continuer dans le futur. Et c'est là-dessus qu'est fondée la prévision numérique de l'atmosphère et du climat. Alors, il y a d'autres choses. Il y a des composantes secondaires. Par exemple, dans l'atmosphère, il y a l'eau. Alors, pour chaque composé secondaire, on a une équation qui est une équation de bilan de masse, exactement la même que pour l'ensemble du fluide. Là en haut, des rho sur dt, des rho sur dt pour le rho des branches de. Alors, pour un composant secondaire de masse volumique Q, j'ai dq sur dt plus Q divergence de E, égale, mais pas nécessairement zéro. Parce que le composant secondaire, ben, chaque masse peut varier. L'eau peut être évaporée dans l'atmosphère ou précipitée. Et même dans certains modèles, il y a trois composantes, trois équations différentes pour l'eau liquide, l'eau solide et l'eau gazeuse. Donc, il faudra trois équations comme ça et trois termes S qui peuvent être positifs ou négatifs. Bon, et puis il peut y avoir d'autres composants secondaires, hein, l'ozone qui peut donner des polluants. Il y a des modèles qui contiennent des polluants et qui ont pour but d'étudier la dispersion des polluants. Donc, il faut mettre des termes sources ou des termes d'absorption de ces différentes quantités. Donc, ça, c'est en gros les principes de base sur lesquels sont construits. Bon, alors, je vous dis, la situation, depuis quelques années, la situation change, je vous en dirai plus, mais construit la prévision météorologique numérique et aussi l'étude du climat. Les fameuses projections, on ne parle pas de prévision, les fameuses projections dont les rapports du GIEC donnent régulièrement, décrivent régulièrement, sont fondées sur des modèles de ce type-là. Ce sont les mêmes qui, enfin bon, je dirais un peu plus, mais ce sont bien les mêmes modèles qui servent, mêmes modèles numériques qui servent à faire de la prévision météorologique à la séance de 1 ou de 4 jours, et ceux qui servent à faire la prévision du climat à échéance de 50 ou 100 ans. Bon, je dirais en quoi ils sont différents, mais bien, ils sont bien les mêmes. Alors, tout ça s'exprime en fonction des dérivées temporelles lagrangiennes, la particule fluide suivie dans ce mouvement. Alors, je pense que vous savez, les dérivées lagrangiennes, dA sur dt égale dA sur dt eulérien en un point donné, plus un terme qui représente le transport, qu'on appelle le terme d'advection, qui est U, la vitesse multipliée par le gradient de la quantité considérée. Donc quand on fait des modèles de ceci, il faut bien, en général, les modèles sont construits sur des dérivées eulériennes, locales. On calcule l'évolution de la température ou du vent en un point donné par rapport à la Terre en rotation. Mais alors, du coup, quand on fait un modèle d'équation, il faut intervenir sur le terme d'advection. Et ça n'est pas simple. Alors, le cas de l'océan, ben c'est les mêmes équations de base. Il y a une équation d'état différente qui prend en compte la salinité. Et la salinité doit prendre en compte. Ah oui, alors dans l'atmosphère, le composant secondaire principal, c'est l'eau. Et évidemment, pour la météorologie ordinaire, pour l'usager ordinaire de la météorologie, c'est l'eau c'est l'état de l'eau, l'état d'humidité de l'atmosphère que l'usager ordinaire souhaite connaître. Mais de point de vue, non, indépendamment de ce que souhaite l'usager ordinaire, l'eau a quand même une très grande importance dans l'évolution physique de l'atmosphère. Alors, je vous l'ai dit, je le signale que l'eau est un gaz à effet de serre, est un puissant gaz à effet de serre. Et une question qu'on pose quelquefois, on parle de l'émission de CO2 dans l'atmosphère due à la combustion des carburants fossiles, mais si je brûle des hydrocarbures, du pétrole, il y a essentiellement des atomes d'hydrogène et des atomes de carbone dans le pétrole. Donc quand je brûle ça va former du CO2, mais ça va aussi former de la vapeur d'eau. D'ailleurs, quand on présente à la télévision, sur la chaîne vidéo, on voit quasiment tous les jours à propos de l'effet de serre des images de cheminées avec des fumées qui sortent des cheminées pour aller sur l'effet de serre. Les fumées ne contiennent pas de CO2. Le CO2 est invisible. La fumée, ce n'est pas le CO2. Ça peut être des gouttelettes d'eau, ça peut être des polluants autres, mais les fumées qui sortent, qu'elles soient blanches ou noires, ou n'importe, les fumées qui sortent de cheminées, ce n'est pas le CO2, contrairement à ce qu'on voit quasiment quotidiennement sur les chaînes de télévision. J'ai plusieurs fois écrit à la chaîne Arte en leur disant, mais s'il vous plaît, arrêtez d'illustrer l'effet de serre avec des... Ça n'a eu aucun effet. Bon, indépendamment de ça, donc l'eau, la vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre, alors la vapeur d'eau va aussi contribuer à l'effet de serre. Alors, est-ce que la vapeur d'eau contribue à l'effet de serre, à votre avis? Bon, pas de réponse. Mais la réponse est non, parce que l'atmosphère est saturée en eau, globalement. C'est pas localement, c'est pas à tout instant. Mais globalement, l'atmosphère est saturée en eau. Si elle est en équilibre, l'eau de l'atmosphère est en équilibre avec l'eau des océans. Si l'atmosphère n'était pas saturée en eau, les océans s'évaporeraient jusqu'à établir l'équilibre. Donc l'atmosphère est saturée en eau. Si on lui met de l'eau, cette eau va retomber. Pas forcément à l'endroit où on a mis l'eau, mais un peu plus loin. Donc l'eau, qui est un puissant gaz à effet de serre, ne contribue pas à l'effet de serre anthropique. Par contre, du fait du CO2 et de l'augmentation de température due au CO2, eh bien, l'atmosphère peut contenir plus d'eau. Et la quantité d'eau contenue dans l'atmosphère augmente, non pas du fait de l'eau qui émet les activités humaines, mais simplement parce que la température augmente et donc elle peut prendre plus d'eau, l'atmosphère peut prendre plus d'eau dans l'océan. Mais l'eau ne contribue pas. En tant que tel, ne contribue pas à l'effet de serre anthropique. Bon, alors, bon, ben, l'océan, les mêmes principes de base, des modèles aussi. Bon, bon alors, 11h33, quelle heure est-il? D'accord. Maintenant que je vois. Bon. Bon. Alors, tout ça, si on veut faire des modèles numériques de tout ça, bah, il faut mettre ça sous un format que les ordinateurs sont capables d'absorber. Et il faut discrétiser le modèle. Et puis, on fait des hypothèses. Bon. Alors, pour les modèles de grande échelle, pour les modèles de prévision météorologique à assez grande échelle, et pour les simulations climatologiques, on fait l'hypothèse, en général, d'approximation hydrostatique. C'est-à-dire que dans la direction verticale, le gradient vertical de pression et la force des gravités s'équilibrent. Ça, c'est bien connu. Alors, je reviens aux équations. Si je prends l'équation de la conservation du moment, ça veut dire que dans la direction verticale, ces deux termes s'équilibrent. Gravité et gradient vertical de la pression. Typiquement, dès qu'on a une échelle spatiale de plus de 10-15 km, cette approximation est vraie à 10 puissance moins 4 près. C'est-à-dire que la différence entre ces deux termes est à peu près 10 puissance moins 4 fois le module de chacun des deux, à peu près. Alors, tout dans l'atmosphère n'est pas en équilibre hydrostatique. Hein. Les cellules convectives, alors bon, il faut que je reste près de, faut que je reste près de mon instrument pour que ceux qui sont en ligne puissent suivre. Dans l'atmosphère, bon, alors j'explique avec les mains. Vous avez le sol de l'atmosphère qui est chauffé par en dessous, fondamentalement. Donc, les basses couches de l'atmosphère sont chauffées par conduction. Donc, le profil de température devient de plus en plus pentu. À un moment, le profil deviendra instable. Instable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je déplace une particule fluide de son état d'équilibre, je mets un peu vers le haut, deux choses de l'une, où elle est, et que je la déplace, disons, adiabatiquement, sans que. Si je la déplace vers le haut, soit sa densité restera supérieure de la densité du fluide, de la densité essentielle du fluide dans un bon moment, et elle retombera vers le bas. Elle le resseillera. À une fréquence qu'on appelle la fréquence de Brunt-Weissel. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Fréquence de Brunt, c'est la fréquence d'oscillation de particules fluides dans une atmosphère qui est stable. Une atmosphère qui est stable, ça veut dire que la température potentielle, la température potentielle, c'est la température ramenée à un niveau de pression standard. Par exemple, la pression au niveau de la mer, la pression tonnerre au niveau de la mer. Si la climat est stable, la particule oscillera. Si l'atmosphère est instable, l'atmosphère partira vers le haut. Et ça mettra en cours, en route, tous des mouvements, tout un système complexe de mouvements ascendants et de mouvements descendants. Ça se manifeste par des nuages, parce que dans les mouvements ascendants, la vapeur d'eau contenu dans les mouvements ascendants, l'air se détend et la vapeur d'eau se condense. Donc ça réchauffe l'air, mais pas suffisamment pour détruire la convection. Et vous avez donc des cheminées d'air ascendant compensées par un air qui descend de part et d'autre, c'est les convections. Et les cumulus, ces gros nuages qui se forment surtout en été et dans l'après-midi, et qui cause des orages, c'est ça. Et ça, par définition, c'est un écart à l'équilibre hydrostatique. Donc l'équilibre statique n'est pas non seulement, n'est pas nécessairement vrai à petite échelle, mais les écarts à l'équilibre hydrostatique ont un rôle très important dans ce sens qu'ils contribuent de façon significative au transfert d'énergie depuis les bas couches de l'atmosphère vers les hautes couches. Dans l'océan, il n'y a pas de convection de ce type-là, mais la convection thermohaline, due à la densité du sel. Je vous expliquais, si une autre surface devient, parce qu'elle est échauffée, de plus en plus salée, et que la vapeur d'eau, que l'eau s'en va dans l'atmosphère, sa densité va augmenter, et à un moment, la densité de la couche supérieure du sel de l'océan va être plus grande que la densité des couches inférieures. Et donc, ça va basculer, ça va créer à l'intérieur de l'océan un mouvement convectif, qui lui aussi est un écart à l'équilibre hydrostatique. Alors c'est pour dire, puisque j'en parle de ça, c'est pour dire que dans les modèles fondés sur l'approximation hydrostatique, fondés sur l'approximation hydrostatique, les convections doivent être représentées. Alors comment on fait pour représenter la convection? Ben, si l'atmosphère est instable, on arrête, on fait un petit truc hors jeu, on rétablit, on simule la convection, le temps de rétablir, et puis ensuite on remet le modèle en route. Ça s'appelle la convective. Oui, alors je vois qu'il est déjà 11h39. Bon, ça va pas. Alors attendez, je crois que je vais 11h39. Oui, je vais. Alors j'arrête le partage. Bon, j'arrête. Là, on va faire une petite. Enfin, j'ai d'abord donné. J'arrête l'enregistrement et je le reprendrai plus tard. Mais en ligne, s'il vous plaît, restez quand même. Restez, je voudrais un peu parler avec vous si c'est possible. Bon, j'arrête l'enregistrement. Je le reprendrai dans 10 minutes.